Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Europe Soir, vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Et ce soir, place à la jeunesse. Toute la semaine, Europe 1 s'engage à accompagner nos jeunes dans le monde de demain. Quelles sont leurs attentes, leurs doutes, leurs espérances? Eh bien ce soir, c'est à eux que l'on va donner la parole. Avec à 18h20, un premier invité exceptionnel, au parcours inspirant, l'ancien grand patron de Nestlé, Peter Brabeck-Letman. Il a débuté comme vendeur de glace, il nous racontera son incroyable ascension. 18h30, le débat des grandes voix, spécial jeunesse. Trois jeunes engagés seront à mes côtés pour commenter l'actualité. Et puis à 19h20, le Club des Idées passe en mode interactif avec trois invités, dont le fondateur de Blablacar. Ils répondront aux questions des jeunes. Le standard est ouvert. Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions, si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux. D'abord le journal avec celle qui a la jeunesse éternelle. Bonsoir Isabelle Millet.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Au début, ça sent pas très bon, et puis après, c'est un peu en plastique, et puis tu respires du plastique un peu toute la journée, donc et puis c'est moins doux que le tissu.
Et oui, c'est moins doux. Fini les masques faits maison. Désormais, à l'école, le masque de catégorie 1 est obligatoire pour tous. Depuis ce matin, le protocole sanitaire est encore renforcé face à la menace des nouveaux variants.
Olivier Véran montre l'exemple. Le ministre de la Santé a reçu aujourd'hui la première injection du vaccin AstraZeneca.
Le maire Rassemblement National de Perpignan, lui, veut braver la loi. Il ouvrira demain 4 musées municipaux. En dépit de l'interdiction, Louis Alliot sera en ligne avec nous dans ce journal.
Le feuilleton Veolia-Suez et une offre d'achat tout sauf amicale. Jamais encore on a connu un tel affrontement entre deux géants français, nous dira Emmanuel Duteil.
Une nouvelle expertise judiciaire dans l'affaire Adama Traoré. Cette fois, ce sont des médecins belges qui se sont penchés sur les causes de la mort du jeune homme. Ils imputent son décès à un coup de chaleur conjugué aux manœuvres effectuées par les gendarmes lors de son interpellation. La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,47% à 5686 points.
Et puis la météo, on verra tout à l'heure que le niveau de la Charente commence enfin à se stabiliser dans la ville de Saintes. La météo, c'est avec Anissa Haddadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
De la neige retour tour demain dans l'Est, en Bretagne, et pas
dans l'Ouest. Ouais,
dans l'Ouest, voilà. En masse, je vais y arriver.
De la neige toute la journée sur la Bretagne. Demain, on risque d'atteindre des valeurs qui n'ont pas été vues en Bretagne depuis plus de 10 ans. Les températures baissent encore demain avec un bon coup de froid sur le nord. La neige arrive aussi sur Paris. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et un nouveau protocole sanitaire est donc entré en vigueur ce matin dans tous les établissements scolaires face à la menace des variants britanniques, sud-africains et brésiliens.
Avec notamment, oui, l'obligation pour tous, élèves et enseignants, de porter des masques de catégorie 1. On oublie donc les jolis masques en tissu cousus avec amour, mais pas assez efficaces.
Sauf que les enfants en particulier s'y étaient attachés, hein, à ces masques à l'effigie de Batman avec des petites fleurs ou des petits papillons ou aux couleurs de leur club de foot préféré. Mais finalement, en Marine Protée, eh bien, le message semble plutôt bien passé dans cette école élémentaire du 15e arrondissement de Paris où vous vous trouvez.
Oui, à la sortie de l'école, quasiment que des masques chirurgicaux sur les visages des enfants. Pour Camille, 10 ans, c'était une grande première et elle n'a pas du tout aimé.
Déjà, au début, ça sent pas très bon. Et puis après, c'est un peu en plastique et puis tu respires du plastique un peu toute la journée. Donc, et puis c'est moins doux que le tissu.
Et c'est parfois aussi trop grand pour leur visage. Enguerrand a emprunté un masque chirurgical à sa mère ce matin. Mais rapidement, ce petit garçon de 7 ans a trouvé l'astuce.
J'ai dû tourner le fil du masque autour de l'oreille parce qu'il ne tient pas si je le plie qu'une seule fois ou deux fois.
Ses parents n'ont pas été prévenus par l'école, pas de mail ni de mots dans le cahier pour expliquer qu'à partir d'aujourd'hui, les masques faits maison sont interdits. Stéphanie l'a appris par les médias, elle a donc pris les devants dès la semaine dernière.
Au début, je voulais lui donner des masques à moi, que j'avais de par mon employeur des tailles adultes, et en fait, ça la gênait beaucoup. Donc, je lui ai acheté des masques de taille enfant, que j'ai trouvé dans une parapharmacie, et pas très cher.
15 euros la boîte de 50, mais pour cette maman, le problème n'est pas le prix, mais plutôt qu'elle se retrouve désormais avec un stock de masques artisanaux dont elle ne sait pas quoi faire.
Merci, reporter. J'attendais la suite, pardon, de Marine Protée dans le 15e arrondissement de Paris. Notez que plusieurs cas du variant sud-africain ont été dépistés dans un collège d'Aubonne, dans le Val-d'Oise. Résultat, l'établissement est fermé.
Il est le tout premier ministre à se faire vacciner. Le ministre de la Santé donne l'exemple.
Olivier Véran a reçu ce matin sa première dose d'AstraZeneca à l'hôpital de Melun, en Seine-et-Marne. Le ministre de la Santé, qui est aussi, on le rappelle, médecin neurologue. Les personnels de santé sont prioritaires. Ils ont donc profité de ce nouveau vaccin réservé au moins de 65 ans, Anne Le Gall.
Voilà, 11h35 ce matin, le ministre a rempli son questionnaire de pré-vaccination avant de déboutonner sa chemise et présenter le haut du bras à une infirmière.
Vous me dites quand vous piquez ?
Bah, je suis déjà.
Ah bon ? Ça va ?
Ah bah oui, super rapide. Rien sorti.
0,5 minutes.
Olivier Véran est ensuite resté quelques minutes en observation, comme le veut le protocole, avant de ressortir et d'encourager tous les soignants à se faire eux-mêmes vacciner.
J'invite l'ensemble des soignants à se faire vacciner dans leurs hôpitaux, dans les centres de ville, toutes les structures qui sont à leur disposition pour pouvoir se protéger au plus vite. Et vous le voyez, bien qu'ayant reçu une injection de vaccin, je porte toujours le masque, je mets du gel hydroalcoolique, je respecte l'ensemble des gestes barrières. Bref, je ne relâche pas la vigilance.
Et la France a déjà reçu 273 000 doses de ce vaccin AstraZeneca pour une vaccination pour l'instant réservée aux soignants de moins de 65 ans. 300 000 doses sont attendues dans les jours qui viennent. Et d'ici à la fin du mois, ce vaccin qui ne se conserve que dans un simple frigo pourra être administré aux personnes de 50 à 65 ans en passant par les médecins de ville et les pharmaciens. Interrogé sur l'efficacité de ce vaccin AstraZeneca face aux variants, le ministre s'est voulu rassurant. Ce vaccin est efficace contre 99% des coronavirus circulant en France actuellement.
Merci. Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Le Portugal, à présent pays le plus touché au monde en nombre de contaminations et de décès, au prorata évidemment de sa population, a reçu aujourd'hui le soutien d'une équipe de 26 soignants de l'armée allemande. On sera sur place à Lisbonne dans le journal de 19h.
Le maire Rassemblement National de Perpignan, lui, a décidé de braver la loi.
Louis Alliot a décidé effectivement la réouverture à partir de demain de 4 musées municipaux, ce qui est totalement illégal. Ce matin, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot disait que les musées seraient les premiers à rouvrir, mais seulement quand une décrue de l'épidémie serait constatée.
Le maire de Perpignan, qui est en ligne avec nous ce soir sur Europe 1. Bonsoir Louis Alliot.
Bonsoir.
Il y a aujourd'hui 3 variants, au moins, qui circulent en France. Le britannique, le sud-africain, le brésilien. Est-ce que ça n'est pas déraisonnable d'aller à rebours des consignes gouvernementales ?
Écoutez, la pandémie, ça fait maintenant un an que nous sommes dedans. Il y a certes des variants, mais à ce moment-là, il faut reconfiner tout. On ne peut pas confiner d'un côté, ne pas confiner le reste. Et je regarde, moi, que les paroles de Mme Bachelot ce matin étaient plutôt de nature à laisser entrevoir une amélioration, et notamment en ce qui concerne des lieux qui sont contrôlés, qui sont sanitairement sûrs. Et à partir du moment où on respecte le protocole sanitaire, ce n'est pas plus dangereux d'aller visiter un musée à Perpignan que d'aller dans un supermarché ou aller faire ses courses.
Sauf que la ministre de la Culture dit qu'elle ne réouvrira les musées et les monuments qu'à condition que la situation s'améliore, qu'il y ait une décrue, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
Oui, mais écoutez, le problème, c'est aussi les populations qui aujourd'hui n'en peuvent plus. Donc moi, je me permets de dire que c'est un savant dosage entre respect de la santé publique et l'équilibre des mesures sanitaires. Et je pense que c'est aussi un droit à l'expérimentation à l'échelle locale.
Louis Alliot, c'est terrible ce que vous dites. Vous allez faire une expérimentation dans votre ville. Ça veut dire que si jamais des Perpignanais tombent malades, vous êtes prêt à prendre le risque, à en assumer les conséquences ?
Vous croyez que quand ils fréquentent le supermarché à côté du musée, ils ne prennent pas les mêmes risques que quand ils vont au musée ?
Qu'est-ce que vous ferez demain si la préfecture vous dit non ? Vous ouvrirez quand même
écoutez,
ces musées ?
On verra ce que l'on fait. Il y a la justice pour cela, comme pour les commerçants. Mais je remarque aujourd'hui que systématiquement, on fait prendre donc des risques à notre population par rapport à ce que vous venez, vous, de me dire pour aller dans les supermarchés s'agglutiner à faire des courses et qu'on ne pourrait pas le faire pour aller se nourrir culturellement et philosophiquement dans les musées, notamment dans les musées de Perpignan qui sont à dimension évidemment humaine où on peut exercer un contrôle à l'extérieur.
Eh bien, merci Louis Alliot, maire Rassemblement National de Perpignan, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1.
Oui, ce soir, la préfecture indique qu'elle prépare un recours devant le tribunal administratif contre la réouverture de ces musées, justement à Perpignan. Donc, la justice dit non, le maire de Nice n'a pas le droit d'interdire les locations saisonnières dans sa commune pendant les vacances. On part donc à Nice.
Oui, le tribunal administratif suspend l'arrêté municipal. Vous savez, Christian Estrosi voulait éviter l'afflux de touristes pour freiner la propagation de l'épidémie.
On en vient à cette guerre sans merci dans le monde économique que se livrent depuis plusieurs mois les deux géants français, Suez et Veolia, mais qui a atteint son paroxysme ces dernières heures.
Hier soir, Veolia a lancé une OPA surprise sur Suez. Son concurrent a réussi ce matin à l'en empêcher grâce à une décision de justice qui suspend l'opération. En tout cas, une telle bataille à la Bourse de Paris, c'est rarissime, Emmanuel Dutheil.
Alors, certains de nos auditeurs se souviennent peut-être de Total Elf, de BNP face à Société Générale pour mettre la main sur Paribas, ou encore du duel, il n'y a pas d'autre mot, entre l'ex-PPR et LVMH pour mettre la main sur Gucci. Des batailles homériques, mais rarement nous étions allés aussi loin dans le œil pour œil, dent pour dent. Et rarement nous étions allés aussi loin sur les noms d'oiseaux par médias interposés. Imaginez ce que ça peut donner une fois les micros fermés. Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis pour que ça se passe ainsi, selon François Chollet, directeur général de la société de bourse Montségur Finance.
Ce sont deux groupes qui cristallisent de très nombreuses décennies de concurrence sur un marché qui était le marché français. Deux cultures d'entreprise très fortes qui donnent aujourd'hui deux managements relativement opposés et surtout les prémices d'une bataille qui ne fait que commencer.
En effet, on est encore loin de l'issue, ce qui énerve au plus haut point le gouvernement. Ce matin sur Europe 1, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a tenté de sonner la fin de la bataille, sans succès pour le moment. Il faut dire que les positions des deux groupes semblent totalement irréconciliables. Et les coûts ne semblent donc pas prêts de s'arrêter.
Emmanuel Dutheil, chef du service Éco d'Europe 1.
Et suite du feuilleton demain matin à l'antenne d'Europe 1, puisqu'à 7h40, Mathieu Béliard recevra dans la matinale le patron de Suez, Bertrand Camus.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal 18h11 avec cette affaire judiciaire qui a fait couler évidemment beaucoup d'encre. L'affaire Adama Traoré, du nom de ce jeune homme de 24 ans, mort en 2016 après son interpellation dans le Val d'Oise.
Et qui est régulièrement brandi par certaines associations pour dénoncer les bavures policières et pour relancer le débat sur l'utilisation du plaquage ventral lors des interpellations. Elle a suscité aussi de nombreuses réactions politiques et des rebondissements judiciaires. Et bien, les conclusions d'une nouvelle expertise viennent d'être présentées aujourd'hui, Gladys Laffitte, et elle conclut un coup de chaleur aggravé par l'interpellation.
Oui, c'est la cinquième expertise judiciaire ordonnée par des magistrats qui ont fait le tour des spécialistes français et sont allés chercher des médecins belges pour déterminer les causes de la mort d'Adama Traoré. Ces experts estiment que les manœuvres de contrainte des gendarmes pour interpeller Adama Traoré, c'est-à-dire le menottage et le plaquage ventral, ont vraisemblablement contribué à son décès, ont été un facteur aggravant, écrivent-ils. Pour eux, l'action des gendarmes a donc joué un rôle. C'est la thèse défendue depuis le début par la famille Traoré et leur avocat, maître Yassine Bouzereau.
Il y a également un coup de chaleur qui est mis en avant, mais les médecins expliquent clairement qu'un coup de chaleur seul ne peut pas expliquer le décès, mais par contre que le plaquage ventral, c'est-à-dire le fait que les gendarmes se soient mis sur M. Traoré qui est allongé sur le ventre, a contribué, provoqué le décès.
On le rappelle, Adama Traoré avait aussi des antécédents médicaux, mais qui ont pu, dans une plus faible mesure, contribuer à son décès, selon les experts. Maladie qu'ignoraient les gendarmes, soulignent leurs avocats. Ils le répètent aujourd'hui, les gestes réglementaires opérés l'ont été au regard de la rébellion d'Adama Traoré. Sous-entendu, il n'y a pas eu d'usage excessif de la force.
Les précisions de Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Sur le front des inondations maintenant, dans le sud-ouest, le niveau de la Charente s'est stabilisé. A priori, le pire est passé et les habitants tentent de reprendre le cours de leur vie grâce à la solidarité notamment, comme l'a constaté Stéphane Place dans la ville de Sainte.
C'est leur bureau de courtage en crédit immobilier ici au cœur de Sainte que Nathalie et Dominique ont protégé comme ils ont pu.
Deux fois par jour, on vient voir, on a isolé tous les meubles.
Il me restait simplement le bas de la porte vitrée là, avec une marche, donc avec une bavette en caoutchouc. J'ai réussi à sécuriser. Et normalement, la décrue va s'amorcer. Il me restait 5 cm avant que ça rentre dedans, donc ça devrait être bon.
C'est la première fois que je vois la place Bassompierre, donc avec l'Arc de Triomphe. Les pieds dans l'eau, c'est la première fois que je le vois, franchement.
Un peu plus loin, c'est le restaurant de Valérie et de son mari que l'eau a fini par envahir, mais pas question de baisser les bras.
Les pompiers sont venus hier, on leur avait demandé juste les parpaings. Ils ont dit, oh non, on est là, on vous le fait. Et c'est vrai qu'en deux temps, trois mouvements, ils avaient tout soulevé, tout surélevé. Ça nous a boosté. Les clients, le nombre de messages qu'on reçoit, c'est incroyable. Ça fait vraiment du bien, quoi. On va rebondir. Non ?
Une crue assez rapide, un pic atteint à la mi-journée et l'espoir d'une décrue qui pourrait aller un peu plus vite que par le passé. Bruno Draperon est le maire de Sainte.
Il y a environ un millier de maisons où les murs ont pris l'eau. Ça dépend aussi des eaux qui sont rentrées chez vous. Quand les eaux sont claires comme ici, ça va à peu près. Mais des endroits où il y a des cuves à fioul qui ont fui. Donc on a aussi certaines petites pollutions qui sont dues dans les murs.
Le bout du tunnel, le début de la fin, c'est ce que nous répètent les sinistrés ici qui espèrent voir la Charente enfin regagner son lit. Sainte, Stéphane Place, Europe 1.
Merci Isabelle pour le journal Isabelle Millet qu'on retrouve à 18h30 pour le rappel des titres. La météo avec Anissa qui nous a retrouvés et qui nous annonce ce nouvel épisode neigeux qui va être assez massif dans l'Ouest.
Ouais, et c'est d'abord en Bretagne que la neige va le plus tomber, un épisode de neige notable. Demain, les quantités de neige en Bretagne seront celles qu'on n'avait pas vues depuis plus de 10 ans. Donc ça va vraiment devenir tout blanc. On attend jusqu'à 10 cm de neige en plaine. D'ailleurs, les 4 départements bretons sont passés en vigilance orange, neige et verglas. Forcément verglas, parce que vous le verrez dans un instant, les températures sont négatives. Et du coup, belle création de plaques de glace. Oui. Au fil des heures, les chutes de neige.
Et la neige va tenir au sol,
surtout. Et la neige va tenir, voilà, le sol est froid, la neige va tenir. Au fil des heures, les chutes de neige vont s'étendre le long du Val-de-Loire. Dans la soirée et la nuit prochaine, la neige arrive sur Paris et la région parisienne. Avec les températures négatives, ça va tenir. Et attention donc aux glissades en voiture ou à vélo. Dans le sud-ouest, la pluie est de retour demain, puisqu'il fait plus chaud, la neige se transforme en pluie. Attention, le Pas-de-Calais et le Nord sont passés en vigilance orange grand froid, parce qu'écoutez bien, demain, les gelées vont se généraliser. Nous aurons moins 6 à Lille et Dunkerque, moins 4 pour Paris, moins 3 à Nantes, moins 2 à Nancy et Strasbourg, moins 1 à Caen, 0 à Brest, et jusqu'à 9 degrés sur la moitié sud. Demain après-midi, pas de dégel, et c'est pour ça qu'on passe en vigilance grand froid. Pas de dégel sur la moitié nord. Demain après-midi, nous aurons moins 3 à Lille, 1 degré à Paris, 3 à Rennes et Belfort et jusqu'à 16 degrés au bord de la Méditerranée.
Oui, d'ailleurs, tous les transports scolaires ont été annulés demain en Bretagne. Merci Anissa, vous revenez nous voir pour un nouveau point à 18h30.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h20 et on poursuit notre émission spéciale consacrée à la jeunesse avec un invité exceptionnel ce soir qui va, j'en suis sûr, donner de l'espoir à tous nos jeunes. Sa parole est rare et son parcours force l'admiration. Il a commencé par vendre des glaces dans un camion sur les routes en Autriche avant de devenir le patron de la multinationale Nestlé. Bonsoir Peter Brabeck-Lettmann. Merci d'être avec nous dans Europe Soir.
Bonsoir.
Alors cet incroyable parcours, vous en avez fait un livre qui s'appelle très naturellement Ascension. C'est aux éditions Favre. D'abord, est-ce que vous imaginiez dans vos rêves les plus fous, quand vous étiez ce jeune homme de 20 ans qui vendait des glaces, est-ce que vous imaginiez devenir un jour un patron de multinationale? Est-ce que vous aviez déjà cette ambition-là?
Pas du tout. Je ne me l'imaginais pas du tout non plus. Je n'ai jamais me projeté trop loin. J'étais toujours concentré sur ce que je faisais au moment. Pour moi, c'était le plaisir de vendre et de provoquer, de créer ce qui m'a occupé, mais pas l'avenir. Je n'ai jamais demandé un plan de carrière, choses comme ça.
Alors ce destin justement, Peter Brabeck-Lettmann, il y a un événement qui va littéralement bousculer le cours de votre vie. Vous partez en expédition pour partir à l'assaut de l'Himalaya pour un sommet à plus de 7700 mètres et vous allez y perdre deux de vos amis qui ne reviendront jamais. C'est une tragédie évidemment. Vous revenez alors en Europe et vous postulez pour un job que vous trouvez dans les petites annonces chez Findus. Et c'est là que l'histoire bascule encore une fois car à l'époque, le responsable des ressources humaines, le DRH, vous recale et c'est le grand patron qui vous embauche parce qu'il croit en vous et qu'avec ce drame que vous avez vécu, il veut vous donner votre chance.
Oui, c'est juste. Et de ça, j'ai retenu quand même quelques leçons pour ma vie personnelle et ma carrière. Et la première chose, c'est que les engagements en général, c'est une chose de personne et pas de système. Moi, dans toute ma vie, ce n'est pas la première fois que c'est arrivé, mais après aussi, c'était toujours le système qui m'a rejeté. Je ne m'ai jamais donné l'opportunité, les analyses avec les psychiatres, etc. Ils ont toujours dit « je ne suis pas apte, je ne suis pas apte ». Mais j'ai trouvé là la chance qu'on doit avoir dans la vie aussi. J'ai toujours trouvé quelqu'un qui était dans la ligne, le responsable direct, qui m'a dit « Non, mais on va vous quand même donner une opportunité, même si ça veut dire que vous devrez être prêt de commencer le plus bas de l'échelle. »
Oui, mais ça veut dire, Peter Brabeck-Lettmann, que pour réussir dans la vie, il y a quand même une part de chance très importante.
Ah, moi, je suis convaincu que dans la vie, il faut avoir la chance.
Oui.
Mais je pense que la chance, elle est quand même bien répartie. Une chose, c'est avoir la chance, et la deuxième chose, c'est la prendre. J'ai vu beaucoup d'opportunités quand les gens ils ont reçu une chance de se développer, etc. Mais au lieu de se concentrer sur cette chance, ils s'est préoccupé de tout ce que ne peut pas passer, ce qui peut arriver ici, ce qui ne peut arriver pas. Et la chance, elle est passée. Et voilà. Et donc, ils ont perdu cette opportunité.
Vous avez d'ailleurs mis en place chez Nestlé, quand vous en étiez le grand patron, un management très particulier. Hein, c'est ce que vous écrivez dans le livre. « J'ai annoncé, dites-vous, que je ne donnerai pas de promotion à celui qui n'aurait pas fait une erreur, au moins une fois dans sa vie. » Ça veut dire qu'il faut échouer dans la vie pour y arriver. C'était votre conviction ?
celui qui n'a jamais pris le moindre risque.
Oui.
Celui qui a toujours couvert ses actions pour que rien ne puisse lui être reproché ne peut pas avoir l'expérience nécessaire pour évaluer.
Oui.
Vous n'apprendrez pas de votre succès. Vous apprendrez de ses échecs.
Oui.
Donc c'est pour ça que je dis, si vous n'avez jamais eu un échec, je suis désolé. Mais ça ne m'intéresse pas.
Alors justement, Peter Brabeck-Letmat, en matière de consommateurs, vous revenez aussi dans le livre sur les grandes réussites que vous avez portées. Nespresso, par exemple. Je voudrais qu'on en dise un mot, c'est un cas d'école, personne n'y croyait, et vos équipes ont tenu bon. L'idée était de créer une machine expresso avec des dosettes individuelles, c'est devenu un carton mondial. Et vous racontez que pour lancer le tout, vous vous êtes tourné vers les coiffeurs. Vous leur avez donné des machines et des capsules parce que ça ne marchait pas, en leur disant « si vous aimez, eh bien, vous pourrez en commander d'autres. » Et en peu de temps, la demande a été mondiale. Quelle réussite tout de même, quelle réussite!
Quand on a lancé Nespresso, on l'a fait comme on fait tous les produits. On est allé à la grande distribution. La grande distribution nous a demandé des floating fees. Donc, il a fallu de payer pour avoir les droits et avoir les produits sur les étagères. Et la machine, voilà, dans le supermarché d'alimentation, il n'y avait pas de machine, donc la machine, elle était dans les media market, etc. etc.
Oui.
Et les pauvres consommateurs, ils auraient dû faire ce pont entre une chose et l'autre. Donc, c'était un grand échec. On était là, on avait une technologie toute nouvelle, on avait une machine qui était magnifique.
Bah, ça s'est transformé en belle réussite, en tout cas, en très très belle réussite même.
Oui, mais c'était là parce qu'on a appris de l'échec. On est allé de retour, on a dit, mais comment on peut faire connaître? Et là, on a dit, voilà, qui sont les personnes qui veulent offrir à sa clientèle le meilleur café qui existe?
Parce les qu'on coiffeurs.
Avait le meilleur café.
Les coiffeurs.
Les coiffeurs.
Oui.
Pourquoi? Parce que les dames, quand ils font la permanente, ils sont 2 heures, 3 heures avec les coiffeurs. Et voilà, il n'existe pas un seul coiffeur qui n'offre pas un café.
Peter Brabeck-Letmat, vous avez eu un coup de génie aussi. Quel coup de génie de faire appel à George Clooney et son célèbre Wattel. Ça aussi, il fallait y penser.
Bah écoutez, de nouveau, je pense que c'était c'est vrai que d'avoir trouvé George Clooney, c'était certainement, du point de vue d'image, énormément importante. Mais à mon avis, ce qui est encore plus génial, c'était les What Else.
Oui.
C'est
quoi
ça.
D'autre? What Else?
Quoi d'autre? C'était ça qui est encore plus important.
Est-ce que vous avez...
C'était le positionnement. Vous savez, dans la réussite commerciale, c'est toujours, il faut trouver quelque chose unique. Et cette quoi autre, elle a fait les produits uniques.
Oui, oui.
Et c'était ça le génie.
Oui.
C'était le génie, c'est vraiment venu de la campagne de publicité et du créatif de la publicité qui avait cette idée sur « what else ».
Oui. En tout cas, ça sera ma dernière question, Peter Brabeck-Letmat. Des intuitions, vous en avez encore, car vous avez investi, je crois, il y a 2 ans dans Moderna, qui a donc été le premier laboratoire à produire des vaccins. Autant dire que vous n'avez pas perdu le sens des affaires. Vous êtes aujourd'hui actionnaire de Moderna, donc?
Oui, je suis actionnaire de Moderna depuis des années.
Oui.
Parce que c'était une technologie qui m'a intéressé énormément, parce que ça révolutionne, ça innove. C'est pas les vaccins, ce qui est la partie intéressante de Moderna. Ce qui est intéressant avec Moderna, c'est une toute nouvelle technologie, et que cette nouvelle technologie, il va révolutionner tous les secteurs pharmaceutiques. Après, on a eu la chance, comme toujours de nouveau, il faut avoir la chance, on a eu la chance que COVID est venu, la chance pour Moderna, pas pour la
pas pour l'humanité, évidemment.
Non, certainement pas.
Bien.
Et mais... certainement pas pour les jeunesses. C'est ça qui me préoccupe le plus.
Bien, et on en parlera ce soir. On va continuer d'en parler de la jeunesse pour cette grande émission spéciale jeunesse et Europe 1 toute la semaine. À l'heure de la jeunesse, pour accompagner nos jeunes à construire le monde de demain. Merci infiniment, Peter Brabeck-Lettmann, d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, absolument passionnant, sur ce parcours incroyable. Ça s'appelle Ascension. C'est aux éditions Favre. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, passé de 1 minute, le rappel des titres avec Isabelle Millet.
Et la neige et le grand froid s'installent sur la France. Aucun car scolaire ne circulera demain en Bretagne en raison des chutes de neige. Anissa Adadi nous en parlera de cette vague de froid d'ici quelques secondes. Et toujours ces inquiétudes autour du variant sud-africain du Covid. Depuis ce matin, le protocole est renforcé dans toutes les écoles. Le port du masque en tissu artisanal fait maison est interdit. Élèves et enseignants doivent impérativement porter des masques de catégorie 1. L'Organisation mondiale de la santé réunit aujourd'hui pour examiner l'efficacité du vaccin d'AstraZeneca, en particulier sur le variant sud-africain. Efficacité qui fait débat, à tel point que l'Afrique du Sud a carrément suspendu le démarrage de sa campagne de vaccination. Cela n'a pas arrêté le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui lui a reçu aujourd'hui la première injection avec AstraZeneca, justement, en tant que neurologue, puisque ce vaccin doit servir à vacciner les soignants, y compris ceux de moins de 50 ans. La justice dit non, le maire de Nice n'a pas le droit d'interdire les locations saisonnières dans sa commune pendant les vacances. Le tribunal administratif suspend l'arrêté municipal. Christian Estrosi voulait éviter l'afflux de touristes pour freiner la propagation de l'épidémie.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. Avant d'entendre nos grandes voix spéciales jeunesse du lundi, d'abord un coup d'œil à la météo. Anissa Adadi avec de nouvelles vigilances dans les prochaines heures, notamment du côté de la Bretagne.
Oui, alors d'abord Julien, nous avons toujours ces vigilances crues et inondations pour la Charente-Maritime, le Maine-et-Loire, la Seine-et-Marne, l'Oise et la Somme. Prudence, hein, puisque même si nous sommes arrivés du côté de la Charente au maximum de la crue, la décrue dans toutes ces régions va être très longue. Le Pas-de-Calais et le Nord sont placés en vigilance orange grand froid. Nous aurons moins 6 à moins 3 degrés demain matin. Et surtout, nous n'aurons pas de dégel demain après-midi, puisque nous aurons moins 3 degrés à Lille en pleine journée. Et puis, les quatre départements bretons, vous le disiez, Julien, placés en vigilance neige-verglas pour un épisode de neige conséquent, prévu demain toute la journée. Cet épisode va s'étendre jusqu'au Grand Est, en passant par l'Île-de-France, et nous aurons de la neige sur Paris demain soir.
Oui, et pas de transport scolaire, je le rappelle, amis bretons. Soyez donc prudents ce soir et demain sur les routes. Merci Anissa. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point à 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, c'est un débat des grandes voix un peu particulier que l'on vous propose, chers auditeurs et auditrices. Un débat avec les grandes voix de la jeunesse pour notre semaine spéciale sur Europe 1. À quoi rêvent les jeunes? Eh bien, on va en débattre avec eux, justement. Bonsoir Camille Etienne.
Bonsoir.
Vous avez 22 ans, vous êtes étudiante et militante écologiste. C'est vous qui avez notamment réalisé cette vidéo devenue virale, on l'entendra tout à l'heure, devenue virale en Europe pour appeler la jeunesse à se réveiller. On est également avec Guillaume Bénèche. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 21 ans, vous êtes jeune entrepreneur, cofondateur du magazine Le Petit Mardi. On vous a souvent d'ailleurs présenté comme le plus jeune patron de France. Bonsoir Gabriel Légéré. Vous avez 27 ans, je crois. Oui. Vous êtes étudiante à Sciences Po et responsable à l'association Chemin d'Avenir qui aide des jeunes de la France rurale à s'engager. D'ailleurs, vous les appelez les invisibles, ces jeunes-là. Pourquoi ?
Parce que les jeunes ruraux et les jeunes issus des petites villes cumulent les obstacles face à leur parcours. Ils sont freinés dans leurs aspirations. Ces obstacles, ce sont le manque d'informations, l'éloignement des opportunités académiques, professionnelles.
Ça a été votre cas. Vous avez
ça
eu du mal pour...
Oui, moi j'ai grandi dans un petit village de Touraine. Et c'est vrai qu'à l'heure d'orientation, c'est compliqué. Et ces jeunes sont restés longtemps dans l'angle mort des politiques publiques, dans l'angle mort des dispositifs d'égalité des chances. Et on voit que la crise a encore plus fragilisé leur situation.
Alors Emmanuel Macron s'est beaucoup exprimé récemment, et depuis un an, mais particulièrement ces dernières semaines, sur la désespérance de la jeunesse, les étudiants et puis les autres. Il dit par exemple ceci, le président de la République.
Je pense que jamais dans l'histoire contemporaine, la période n'a été aussi injuste pour notre jeunesse. Mais qu'elle croit en une chose, c'est qu'on est tous conscients, et moi au premier chef, qu'on lui doit quelque chose. Et qu'on sortira de cette crise, et je m'en porte garant, en étant encore plus au rendez-vous de ce qu'on lui doit. On ne peut pas sortir de cette crise en ayant juste plus de dettes financières qu'on lui laissera, une dette climatique qu'on n'aura pas réglée et une espèce de morosité qu'on va lui laisser.
C'est vrai que ça ne fait pas rêver sur le papier quand on entend l'énumération du président de la République, Guillaume Bénèche. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette déclaration ?
Ce que je trouve rigolo, c'est qu'on se concentre plutôt et davantage et que le gouvernement s'intéresse davantage à la sortie de la crise avant de penser à ce qui se passe maintenant. Mais je pense que c'est assez révélateur finalement de...
Il y a des annonces qui ont été faites quand même.
Oui,
sur
bah, bien sûr,
la
mais
crise
bon,
du monde étudiant.
Au-delà des annonces, et on voit le désespoir de la jeunesse aujourd'hui, notamment des étudiants, je pense que c'est un fait, et on l'a vu encore plus ces dernières semaines. Là où c'est j'ai même envie de dire rigolo en fait que le gouvernement puisse porter ce regard-là, et notamment le chef de l'État, c'est qu'on en vient finalement à parler ici, il parle beaucoup avec expérience et un vrai regard sur le passé en se tournant beaucoup vers l'avenir,
oui.
Avant même de penser beaucoup en fait tout simplement au fait qu'il y a un regard à porter aujourd'hui et maintenant, et que ce regard-là est dans les actions, c'est là où on l'attend. Et d'ailleurs je pense que voilà, on l'a vu encore ces derniers jours avec les différents ministres qui se sont précipités sur des nouveaux usages de la jeunesse, oui. Pour s'adresser à eux. Quoi.
Mais on ne peut pas leur reprocher de faire des annonces alors que jusqu'à présent on leur disait d'être un peu... On leur reprochait d'être un peu passif, de ne pas faire suffisamment pour la jeunesse. Vous me répondrez dans quelques secondes, je voudrais l'avis également de Camille Etienne. Comment vous jugez les décisions prises par le gouvernement depuis, allez, non pas un an, parce que le début de la crise, on était dans quelque chose d'inconnu, mais depuis 8 mois?
Sur la jeunesse spécifiquement,
oui.
Parce que j'ai une réponse sur l'environnement, mais sur la jeunesse spécifiquement.
Non, on va en parler d'environnement.
Non, je rigole.
Sur la jeunesse d'abord.
Oui, non, mais en tout cas, elle est très tardive. C'est marrant de voir que c'est la culture et les jeunes. C'est un peu, on se dit, bon, bah, il y a les troubadours et puis ceux qui ne vont pas trop se révolter. Donc, ils attendront plus tard, on verra. Et en fait, non, on se rend
pourtant,
compte que.
Pourtant, les jeunes, on sait que c'est plutôt eux qui se révoltent les premiers.
Et donc, justement, pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps pour répondre? Et est-ce que la réponse est suffisante? Ça encore, on peut en discuter. Voir que cette détresse, elle a été prise vraiment.
Non,
évidemment que non. Je pense que. On en parlait en antenne avec Gabriel, c'est d'abord des réponses économiques qui sont discutables. Parce que est-ce qu'un prêt, est-ce que démarrer dans la vie, au lieu d'étendre des aides, au lieu de démarrer dans la vie avec des dettes, est-ce que réellement c'est pertinent? Je ne suis pas sûre que ce soit une réponse adaptée pour ma part.
Qu'est-ce que vous attendiez, vous, par exemple?
Par exemple, il y a cette question d'étendre le RSA, il y a cette question à la jeunesse.
Mais le RSA,
ça ne
concerne
aides.
Pas directement les jeunes, c'est plutôt les.
En fait, non, mais il y a tout un tas de jeunes et d'étudiants qui, en effet, n'ont pas, ont perdu leur petit boulot. Un tiers d'entre eux ont perdu leur petit boulot parce que c'était des choses qui, dans la restauration par exemple, typiquement, dans les salles de spectacle, toutes ces choses qui étaient faites par des jeunes qui ont
c'est
disparu.
Vrai, on en parle régulièrement
donc,
à ce micro.
Comment
donc,
est-ce
vous
qu'on
dites...
fait pour... Parce qu'en fait, il faut se rendre compte aussi qu'il y a plein de jeunes qui, même si aujourd'hui on a la chance en France d'avoir des études qui sont souvent gratuites, il y a plein de dépenses autour qu'on n'imagine pas. Et beaucoup de jeunes qui sont obligés de travailler en parallèle. Et quand ils n'ont plus ces salaires-là, comment est-ce qu'ils font?
Donc vous dites qu'il aurait fallu mettre en place, indépendamment du RSA jeune, on en parlera tout à l'heure, qui concerne plutôt les non-étudiants, en réalité, ceux qui n'ont pas de boulot, parce que c'est vrai qu'en dessous de 25 ans, on n'a pas le droit aux minima sociaux. Donc vous dites qu'il aurait fallu créer, pour les étudiants, on va parler d'eux en premier, il aurait fallu créer une aide spécifique, une aide financière, un petit coup de pouce.
Par exemple, étendre la bourse. Par exemple, je sais qu'Anne Hidalgo en parlait, de faire un aide, là, je crois que c'était 500 euros qui était discuté. Ce serait pertinent de plutôt que... Moi, je trouve ça problématique de se dire on va proposer aux jeunes de démarrer dans la vie, un peu comme ça se passe aux États-Unis avec des prêts. Pour moi, ça me pose problème, en effet.
Gabriel Légéré, qu'est-ce que vous attendiez, vous, de ces annonces gouvernementales? Il y a ce qui vient d'être évoqué. Et puis, il y a aussi l'idée que le gouvernement a mis en place, alors bonne ou mauvaise idée, vous allez me répondre, 2 repas par jour à 1 euro pour les étudiants.
Oui, c'est une bonne chose, mais je pense que ces fragilités, elles ont été exacerbées par la crise, mais elles existaient déjà avant. Si je prends ma casquette de responsable associative, la jeunesse rurale, elle cumulait déjà des obstacles. Et là, avec la crise, qu'est-ce que c'est? C'est une fracture digitale qui est amplifiée. Qu'est-ce que c'est quand on habite dans un petit village des Vosges, qu'on n'a pas beaucoup Internet, on est complètement exclu du marché de l'emploi?
Oui.
C'est aussi le gel des opportunités. Et ces opportunités, elles vont freiner l'orientation des jeunes, mais aussi leur qualité de vie. Camille le disait très bien, mais dans la Nièvre, par exemple, nous, on accompagne beaucoup de jeunes qui ont des jobs étudiants dans le tourisme. Mmh. Mais crise égale pas de tourisme, pas de tourisme égale pas de job égale pas de loyer pour
Et
payer.
Et vous pensez que c'est irréversible, ça?
Je pense qu'il faut une véritable politique publique à l'égard de ces jeunes qui traite les problèmes à la racine.
Oui.
Et qu'aujourd'hui, ce sont des aides financières, elles sont bienvenues, elles sont
parce
bienvenues.
Qu'on est dans
exactement.
L'urgence. Parce
oui.
qu'on est dans l'urgence. Alors, on continue d'en parler dans quelques secondes. On marque une première courte pause, 18h40, et on se retrouve pour les grandes voix de la jeunesse jusqu'à 19h. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h42, avec toujours le débat des grandes voix de la jeunesse, ce soir avec nos 3 invités pour réfléchir et parler ensemble de l'avenir et de ce en quoi croient les jeunes, et puis leur désespoir aussi. Vous savez qu'on en parle beaucoup en ce moment, et on réagissait juste avant la pause aux annonces, notamment du gouvernement. Alors, Guillaume Bénèche, vous avez 21 ans, vous êtes jeune entrepreneur, je le disais tout à l'heure, cofondateur du magazine Le Petit Mardi, et c'est vrai qu'il y a un sujet qui est beaucoup revenu depuis le début de la crise du Covid, c'est cette petite musique, celle d'avoir sacrifié les jeunes générations pour la protection des aînés. Est-ce que, pour vous, c'est une réalité, cette fracture entre les générations?
La fracture entre les générations existe et je pense que la véritable solution à ça, c'est le dialogue. On a essayé et on essaye beaucoup et d'ailleurs d'opposer les générations entre elles. On l'a encore vu, il y a peu de temps, cette fameuse phrase « Ok, boomer » et oui. Toutes les autres, et les noms des générations X, Y, Alpha, et qui s'enchaînent
vous,
avec l'impression.
Mais vous énerve cette génération
Non, moi, elle m'énerve pas. Moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est parlons-en, discutons, engageons une conversation ensemble, essayons de réconcilier tout ça. Je pense que la meilleure façon, finalement, d'arriver à trouver des solutions, c'est de se comprendre. Or, on n'essaie pas de se comprendre. Il y a un manque réel de dialogue entre ces générations qui deviennent des mentors pour beaucoup, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la majorité des associations, dès qu'on essaie d'aider des jeunes, on va chercher des mentors plus âgés ou des personnes qui vont apporter une expérience et une aide. Mais à côté de ça, finalement, ces personnes-là ne comprennent pas qu'il y a un mentorat inversé qui peut exister et qu'on peut essayer de discuter et trouver des solutions ensemble.
Vous êtes d'accord avec ça, Camille Etienne ?
C'est vrai que moi, on a essayé beaucoup de m'enfermer dans les OK boomers vs les millennials. Je pense que on n'a pas le temps de faire le combat de qui a eu la génération la plus pourrie.
Oui,
vous avez eu des famines, des guerres, c'était dur, merci pour vos combats. On continue pour le droit des femmes, pour tout ce que vous avez fait, on continue à les porter, à s'en saisir. Mais moi, si j'aurais un message à faire passer, il y en a deux en réalité. C'est que très, très rapidement, nous, notre génération vit quand même quelque chose d'assez unique dans l'histoire de l'humanité, c'est que l'intégralité d'un demain est menacée. Et alors, c'est quand même assez terrifiant.
Camille Etienne, justement, mm-hmm. je vais me permettre, pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne connaissent pas forcément votre parcours et cette vidéo que vous avez faite il y a maintenant quelques temps, qui est devenue virale partout en Europe, qui a eu un succès assez incroyable, pour rappeler précisément la jeunesse à se réveiller. On va écouter quelques instants.
Je suis désolée. On pensait que ça n'arriverait qu'aux autres, qu'aux grands perdants de ce système. Pour la première fois, on a décidé de ralentir cette course effrénée à la croissance, au nom de la vie. Nous sommes la première génération à vivre les conséquences du réchauffement climatique et la dernière à pouvoir y faire quelque chose.
Voilà, ça c'est la vidéo en question. Ça dure une dizaine de minutes. Je l'ai regardé tout à l'heure sur Internet. Voilà, ça marche très bien. C'est très impactant, comme on dit aujourd'hui. Ça a eu un retentissement partout en Europe. Et justement, je vous interroge sur cette fracture générationnelle, parce que ce qu'on comprend aussi à travers ce message, même s'il ne s'agit pas de pointer la responsabilité sur tel ou tel, c'est quand même que c'est la génération d'avant qui nous a mis dans cette situation-là. Et que maintenant, c'est à vous, les jeunes, qui incombe de changer la donne.
Parce qu'on n'a pas le choix. Donc maintenant, ça c'est un constat. En effet, je pense qu'il y a une petite partie de cette génération qui est au courant et qui a sciemment fait en sorte de préserver pour ses intérêts ce monde-là, mais il y a toute une grande partie qui ne savait pas. Et nous, on a plongé la tête la première dans l'eau glacée, on a étiré cette société de consommation dont on paye les conséquences. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à la génération d'avant, entre guillemets, c'est que c'est une main tendue. Ce qu'on a envie de leur dire, c'est en fait, bousculer votre monde, c'est pas le faire disparaître. Écrire notre histoire, c'est pas effacer la vôtre. Et c'est peut-être ça, grandir, en fait. C'est peut-être se chercher, se saisir de ce commun et questionner les mots, est-ce qu'on rajoute ou pas des lettres, questionner nos genres, questionner nos idéaux. Et c'est ça, grandir. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'ils nous apprennent à grandir à leur côté.
Quand même, il y a une déconnexion entre vos attentes, vos espérances et puis un peu le discours peut-être paternaliste aussi d'une certaine génération.
Il y a des gens condescendants de partout, de tout âge. Il y a des gens qui ont envie de rester dans leur petit privilège sans ouvrir les yeux parce que ça fait peur d'ouvrir les yeux et de voir que d'autres paient les conséquences de nos actes. Ça, on n'a pas besoin d'âge pour ça. Mais il y a des gens qui se bougent de toutes les générations. Quand on voit en termes de sociologie, par exemple, sur l'activisme, donc on parle beaucoup de Paris, des mouvements, des marches pour le climat, etc. Mais en local, c'est-à-dire quand on va dans les villages, par exemple, c'est des personnes plus âgées qui sont à la tête de ces mouvements-là. Donc on a besoin de tout le monde, c'est une main tendue. On a l'énergie, vous avez l'expérience, avançons ensemble.
Alors sur l'engagement, Gabrielle Légeret, vous avez 27 ans, je le rappelle. Vous êtes responsable plaidoyer de l'association Chemin d'Avenir, qui aide donc des jeunes de la France rurale à s'engager. On entend souvent cette petite musique, ce petit discours, qui est de dire, grosso modo, les jeunes ne s'engagent plus. Il n'y a plus d'engagement dans la jeunesse, comme il y avait... Vous n'avez pas connu, et moi non plus, mais dans les années 60, 70, après mai 68, où tout le monde
c'est
était
le
très
engagé.
Est-ce que vous dites « Non, c'est pas vrai, nous les jeunes, on s'engage ».
Non, c'est pas vrai, nous les jeunes, on s'engage. Et avec Chemin d'Avenir, on voit à quel point, dans leur territoire, les jeunes sont très engagés. Alors, c'est plus un engagement dans les partis politiques comme ont connu nos parents ou nos grands-parents. Mais il y a énormément de jeunes qui s'engagent en faveur du développement durable, en faveur des personnes âgées aussi. Nous, dans les territoires ruraux, ce qu'on voit et ce qui remonte, c'est des jeunes qui se sont engagés pendant la crise sanitaire pour apporter des paniers repas aux personnes âgées qui étaient isolées. Il y a un véritable engagement.
Et vous trouvez que ça, c'est pas après assez pris en considération par peut-être les politiques, peut-être les anciennes générations qu'on évoquait, ceux qui détiennent aujourd'hui la puissance d'action dans notre société?
Non, c'est pas assez pris en compte. Et surtout, si on regarde dans la ruralité, dans les petites villes, c'est difficile pour les jeunes de s'engager. Mmh. Parce que le tissu associatif peut être moins dense, parce que, par exemple, des services civiques, il y en a moins dans les zones rurales. Oui. Mais il y a une envie de la jeunesse de prendre son avenir à bras-le-corps et surtout de mettre le sens et l'impact au centre de sa profession, au centre de son cheminement professionnel. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup.
Guillaume Bénèche, 21 ans, jeune entrepreneur, je le disais tout à l'heure. À quoi on rêve quand on a 21 ans et qu'on a envie d'être entrepreneur et de faire de l'entrepreneuriat de sa vie? Peut-être, je ne sais pas quelles sont vos ambitions, mais voilà, à quoi vous rêvez, vous?
Mais on a l'envie, je pense, surtout. C'est-à-dire, au-delà du rêve, c'est cette envie c'est ce que vous disiez tout à l'heure, cette envie de se concentrer sur des valeurs qui sont les nôtres, sur cette envie de s'engager, finalement, d'avancer.
À vous.
Les miennes, c'est peut-être celle du partage, c'est celle de se dire que globalement, on est capable de se concentrer sur un avenir
ça,
qui serait meilleur.
La différence entre les générations passées et votre génération, c'est de donner un sens.
Oui, complètement, mais la quête de sens, elle est majeure. Aujourd'hui, plus de 60% des jeunes ont envie d'avoir un sens dans l'entreprise dans laquelle elles sont. C'est quelque chose qui n'est pas anodin. C'est-à-dire que derrière, on a envie d'aller chercher du sens, on a envie de s'engager pour des choses qui vraiment nous apportent, et nous apportent quelque chose, et nous importent de façon générale. Et oui, quand on entreprend, quand on s'engage, quand on essaye de faire des choses, on essaye simplement d'imaginer un futur qui correspond à ce qu'on a envie de créer pour nous, pour notre société, pour nos enfants plus tard, et d'essayer aussi de se concentrer sur cette idée que, ouais, en effet, il y a un passé, il est là, on a des générations qu'on respecte terriblement pour plein de choses qu'elles ont pu créer et qu'elles nous ont laissées, et qu'aujourd'hui, voilà, on est dans un présent qu'on essaie de construire pour avancer.
Il faut nous écouter.
Mais bien sûr.
18h50, on se retrouve dans quelques instants. On parlera du travail, notamment. J'ai envie de vous entendre aussi sur le travail. À quoi ressemblera votre travail, le travail et vos espérances en la matière pour les années à venir. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on poursuit le débat des grandes voix spéciales jeunesse ce soir, 18h51, avec notre semaine spéciale sur Europe 1, vous le savez, au chevet de ceux et celles qui vont construire le monde de demain. C'est important, évidemment. Alors, à quoi rêve la jeunesse pour le monde d'après et qu'attendent-ils de nos politiques? Tiens, notamment, Zoé Pally a justement posé la question à notre panel jeune. Je vous propose d'écouter.
Moi, la politique, avant, je m'en intéressais pas trop. Mais du coup, avec le Covid, maintenant, avec les interventions de Macron qui sont beaucoup plus fréquentes, je m'y intéresse un peu plus. Par exemple, de regarder ce que les partis politiques proposent les uns les autres pour sortir de la crise.
Voilà, Camille Etienne, 22 ans, étudiante et militante écolo, est toujours à mes côtés en studio. Vous y croyez, vous, encore, à la politique?
Mais la politique, je la fais tous les jours. La politique, ce que ça veut dire, c'est la police, c'est la gestion de la cité.
Oui.
C'est se retrouver ce bien commun. Et il faut qu'on s'en saisisse, il faut qu'on arrive à penser un peu plus grand que nous-mêmes. Et je crois que cette génération a soif de ça, manifestement, parce que il y a l'environnement, il y a tout, il y a cette question sociétale. C'est en fait se saisir de quelque chose qui ne concerne pas uniquement nous,
mais notre matière d'habiter le monde. Différemment quand même. C'est-à-dire, vous faites
mais
de la politique
heureusement,
à
sinon
travers
ce serait
les acteurs
mou.
De la société civile. Ça veut dire que votre conviction, c'est aujourd'hui les acteurs de la société civile dont vous faites partie, les jeunes, les citoyens, qui feront bouger les lignes, et non pas la classe politique.
On a un écosystème, c'est-à-dire qu'on a besoin de gens ambitieux, de gens audacieux, de gens intransigeants et éveillés partout, dans tout. On a besoin d'entrepreneurs comme ça, de journalistes comme ça, de politiques comme ça. Il y en a qui sont à la hauteur et qui font bouger les lignes de l'intérieur. Mmh. Donc s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de rentrer en politique, faites-le. Simplement, je crois qu'il y a une partie de sa jeunesse qui ne se retrouve pas aussi dans ces règles de la Ve République, dans ce présidentialisme de « on vote une fois tous les 5 ans et après, merci, au revoir, on ne vous écoute plus ». On voit comment la Convention citoyenne pour le climat, qui est quand même un outil démocratique très intéressant, comment il a quand même intéressé toute une partie de sa jeunesse qui s'en est saisie. Donc je me dis que c'est pas complètement foutu, non. Je pense que les jeunes s'engageront encore demain en politique.
Gabriel Légeret, vous avez 27 ans, je le rappelle, responsable plaidoyer à l'association Chemin d'Avenir, qui aide donc des jeunes de la France rurale à s'engager. Que vous disent-ils, tous ces jeunes que vous représentez, que vous essayez de pousser dans les petites communes, sur les territoires ruraux, vous en parliez très justement tout à l'heure, et qu'attendent-ils du monde du travail et des hommes politiques et
d'abord,
des femmes politiques,
ils ont envie d'être libres dans leur avenir, et aujourd'hui ils ne le sont pas toujours. Ils se sentent quand même très freinés en raison de leur ancrage géographique, parce qu'ils cumulent un certain nombre de défis liés à leur territoire, mais ils ont envie d'engagement. Mmh. Ça, c'est certain que l'engagement est au cœur de leur volonté.
Mais je vais vous poser une question pour aller plus loin, qui n'est pas très politiquement correcte. On dit souvent que les Français attendent trop de la puissance publique, attendent trop de l'État. Et l'État ne peut pas toujours tout. On le sait, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est d'anciens premiers ministres notamment. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que cette jeunesse attend trop de l'État ?
L'État ne peut pas tout et je pense que si la jeunesse se tourne beaucoup vers les associations ou vers un engagement du côté de la société civile, c'est parce qu'elle s'y retrouve plus et cette société civile peut impulser des directions au niveau politique. Je vous donne un exemple, mais nous, ça fait quand même depuis 2016 qu'on milite pour qu'il y ait une politique publique en faveur des jeunes ruraux, pour vraiment traiter les problèmes à leurs racines. On a rendu un rapport à Jean-Michel Blanquer sur cette question.
Oui.
Et depuis quelques semaines, là, il y a une expérimentation qui s'appelle les territoires éducatifs ruraux qui sont en train d'être mis en place. Donc peut-être que c'est le début.
Et ces jeunes que vous représentez de milieux ruraux, ils ont envie de rester là où ils habitent ou ils ont envie de partir ailleurs? Parce que c'est important aussi de faire vivre nos territoires.
Nous, on a envie qu'ils puissent partir pour mieux revenir.
Oui.
Si on vous oblige à rester dans votre territoire, est-ce que vous avez vraiment envie de l'aimer, ce territoire?
Oui.
Nous, ce qu'on a envie, c'est de permettre à des jeunes d'avoir une mobilité en fait, entre les territoires, qu'un jeune de la Nièvre puisse te dire qu'il peut aller faire ses études à Caen ou une école d'architecture à Lyon pour revenir sur son territoire et pouvoir impulser une architecture écologique, moderne, avec sa mairie. Voilà, c'est ça qu'on
veut. Oui, que ça fasse vivre les territoires à travers les expériences qu'ils ont pu acquérir à droite, à gauche. Guillaume Bénèche, vous avez 21 ans, vous êtes jeune entrepreneur. Peut-être que demain, avec le télétravail, qui sait, vous irez vous installer en milieu rural
pour faire
vivre ces territoires.
C'est très, très probable. Je viens de Rouen et je suis très, très attaché à la Normandie et à des territoires hors de Paris. Moi, ça fait que 2 ans que je suis à Paris et je navigue beaucoup entre la Normandie et
Qu'est-ce
Paris.
Que vous attendez, vous, du monde du travail? Alors, vous n'attendez pas grand-chose, parce que pour rebondir sur la question que j'ai posée juste avant, vous avez décidé de prendre les choses en main et de créer vos...
Ah mais justement, c'est justement pour ça que j'attends
business,
des choses.
Vos boîtes.
C'est justement pour ça que j'attends quelque chose. Je pense que le rôle d'un entrepreneur demain, c'est d'injecter du sens dans notre société et notamment dans l'entreprise.
Vous trouvez qu'on en manque aujourd'hui?
Terriblement, terriblement. On manque de sens. Des gens qui travaillent et qui se sentent obligés de travailler, qui gagnent mal leur vie, qui rentrent chez eux fatigués en se demandant pourquoi ils vont se lever le lendemain matin. Pour moi, c'est un vrai problème de sens. C'est une problématique qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et je pense que c'est quelque chose que notre société et justement notre jeunesse au sein de cette société peut insuffler demain. C'est cette idée de sens au quotidien.
Alors, il nous reste 30 secondes. Je vais vous demander à chacun, si vous aviez le président de la République en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez en 3-4 mots? Camille Etienne.
Soyez à la hauteur de l'enjeu.
Soyez à la hauteur de l'enjeu. Gabriel Légeret.
De résorber les fractures territoriales et peut-être avant ça de les regarder.
Bien. Message cohérent par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Et vous, Guillaume Bénèche?
Engager une vraie conversation avec la jeunesse.
Oui. Vous trouvez que ça manque?
Terriblement. Terriblement. Oui. Terriblement. Si demain,
les interviews sur Brut, c'est pas suffisant.
Mais c'est pas engager une conversation avec la jeunesse, de faire une interview sur Brut, c'est bien le problème. Tout comme faire une interview sur Twitch. C'est pas ça, engager une conversation, c'est aller beaucoup plus loin, c'est aller en profondeur, c'est s'adresser directement.
On espère qu'il vous écoute, en tout cas on lui passera le message. Merci infiniment, c'était absolument passionnant. Merci d'avoir joué le jeu et merci d'être venu dans le studio d'Europe Soir.
Europe 1, Julien Bugier.
On se retrouve dans quelques secondes avec le journal et puis suite d'Europe Soir spécial jeunesse, à quoi rêvent les jeunes? On en parlera avec nos invités jusqu'à 20h, à tout de suite.
Europe 1, écoutez le monde changer.